bienvenue sur Double Slash, le podcast dédié aux outils et aux techniques pour le développement web.
Bonjour à tous, aujourd'hui on est avec Patrick.
Salut à tous.
Et sujet toujours hyper d'actualité, on va parler de Jamstack, mais surtout de e-commerce. Alors Patrick, toi tu viens de livrer ton premier e-commerce statique, donc totalement Jamstack on va dire. Ce que je te propose, c'est qu'on en discute un peu et de voir les points forts, les points faibles et comment, comment ça s'est construit.
Ouais, ça marche.
Et du coup, déjà, est-ce que tu peux nous parler du projet quel était le projet? Combien il y a de produits? Tout ça, enfin, un petit peu le contexte et quelle techno tu as utilisé?
Alors, le contexte, il est assez simple. On est dans une période de confinement et on en sera sorti normalement au moment où vous allez écouter ça. Mais pendant cette période de confinement, il y a pas mal de commerces qui ont été fermés assez soudainement, mi-mars, et qui ont décidé tout simplement d'essayer de relancer l'activité vers mi-avril. Donc relancer l'activité, ça voulait dire ne pas forcément ouvrir complètement, mais proposer de la livraison aux personnes ou du retrait, mais à travers la porte quoi, du commerce. Donc moi, je m'étais amusé à faire un petit site avec Snipcart et Gatsby, voir ce qui était possible de faire, connaître un petit peu la techno de Snipcart, comment ça fonctionnait, comment l'implémenter, tout ça. Et puis voilà, il y a un petit commerce sur Lyon que je connaissais, un petit salon de thé boutique. Qui désirait relancer l'activité. Et puis je lui ai proposé, je lui ai fait voir le système, tout ça, et je lui ai proposé de partir là-dessus. Je lui ai proposé deux solutions, et puis elle a choisi tout simplement de partir sur la version statique, sans vraiment savoir comment ça fonctionnait. Mais elle m'a fait confiance, et puis on est parti là-dessus. Et voilà.
Excellent. Cool. Et juste pour remettre dans le contexte, alors peut-être Gatsby, je pense qu'on connaît peut-être à peu près tous. Snipcart, peut-être un peu moins. Tu peux, sans faire la pub de la promotion de Snipcart, mais juste quelle est la fonctionnalité de Snipcart en fait?
Snipcart, c'est un système assez simple qui s'implémente sur n'importe quel site. Alors j'ai fait ça sur Gatsby parce que je maîtrise Gatsby, mais j'aurais pu le faire sur n'importe quel site. Tu peux même l'implémenter sur un WordPress si tu as envie. C'est un système assez banal où tu rajoutes des balises de CSS, des balises JavaScript, et ça te rajoute une fonction, donc tout ce qui est panier, gestion commande, gestion de compte sur ton site. Et ensuite, tu implémentes l'ajout des produits dans le panier via des... tu rajoutes un tag button et tu as des paramètres, des attributs que tu rajoutes au button pour quand tu cliques dessus, ça rajoute des produits dans le panier. Et après, tu gères ton panier avec toute l'interface Snipcart qui est rajoutée sur ton site. Donc, c'est très facile à implémenter.
D'accord. Donc, en fait... Ok, donc en fait, j'ai un site statique classique, j'ai un ou deux produits, j'ajoute Snipcart et j'ai transformé mon site internet en e-commerce.
Avec un panier, tout dans ton site, sans avoir rien fait, juste, tu peux très bien mettre, si tu as un produit ou deux, même, tu peux même faire une page HTML, tu mets deux produits, tu mets le Snipcart et hop, tu as un site e-commerce comme ça, rapidement. Sans te casser la tête. Donc c'est vraiment excellent. Et donc je sais pas depuis quand ils existent parce que moi je connais, je pense que c'est peut-être depuis 2015. Je sais pas, tu connais peut-être mieux que moi le début de Snipcart.
Il me semble que ça fait, on va faire une petite recherche, mais je crois que ça fait, ça doit être ça, 2015.
Ouais, en tout cas, ils sont à la version 3 de leur librairie, enfin de leur API. Et avant, apparemment, ça utilisait du jQuery, des choses comme ça. Ils ont complètement basculé sur Vue. Donc, toute l'interface de panier, etc., c'est du Vue. Du coup, ça rajoute pas mal de choses possibles, notamment, on en parlera peut-être après, mais notamment grâce à Vue, tu peux...
En interaction.
En fait, tu peux customiser des éléments, en fait. Donc, tu peux implémenter, dans ton panier, tu peux rajouter des éléments. Je sais plus comment ça s'appelle là, le système où tu rajoutes des, je sais plus comment ça s'appelle le mécanisme,
des directives,
je sais plus, enfin bref, tu remplaces des éléments qui sont dans un component via un code en fait. Donc, tu peux customiser quand même pas
Bon,
mal le.
je regarderai, ouais.
Ouais, je me souviens plus comment ça s'appelle parce que j'ai vu, j'en fais plus trop en ce moment. Mais du coup, tu vois, tu peux customiser pas mal de choses et je pense que c'est ça qui est très intéressant dans cette nouvelle version qui était sortie donc fin 2019. Donc, elle est assez récente. Ils sont encore corrigés, ils sont en train de corriger pas mal de choses, ils implémentent des choses, enfin voilà. Mais ils sont très.
Et c'est facile à intégrer, quoi.
Ouais, c'est très facile. Ouais, c'est facile à intégrer. Derrière, en plus, ils sont très très réactifs. Ils sont au Canada, donc ils parlent français. C'est plutôt sympa. Ils parlent anglais, français. Ils te répondent en français. Et ils sont très réactifs surtout. C'est une petite équipe apparemment. Et donc tu as un chat dans le dashboard que tu as. Et puis ils te répondent. Voilà, ils mettent maxi une journée pour te répondre. Et généralement, ils te trouvent des
Donc
solutions.
ils ont un super support client, quoi, c'est
Ouais,
ça?
pour l'instant, ils arrivent à assurer. Voilà, ils te répondent. Ils sont disponibles. Donc ça, c'est ouais, pour l'instant, c'est une bonne chose. Donc ouais, c'est.
Et le client final, en fait, lui, il peut payer directement via Snipcart aussi.
Le client final du e-commerce, tu veux dire?
Oui, le client final, en fait, il va sur le site. Grâce à Snipcart, en fait, il a son module de paiement qui est déjà intégré.
Ouais,
Donc,
tu
en
as.
fait, c'est le panier et le paiement,
Le
quoi.
paiement, la
C'est ça?
livraison, tout, en fait, tu branches tu fais un compte Snipcart et à partir de là, tu branches. Alors nous, c'était Stripe, mais tu as d'autres services qui sont disponibles. Et tu branches Stripe pour le paiement. Alors tu passes par l'interface Snipcart où tu rentres ton numéro de carte bleue, tout ça, mais le paiement est fait sur Stripe. C'est totalement
Via
transparent.
Stripe.
Ouais. Par contre, ça ouvre pas une fenêtre
En fait,
Stripe, c'est
c'est.
vraiment Snipcart. Donc
D'accord, en fait, c'est Snipcart qui a intégré en
voilà,
fait un
qui est
module de
connecté,
paiement
ouais,
via Stripe.
c'est ça.
Donc du coup, pour nous, en tant que développeurs, on a juste à intégrer Snipcart dans notre site et
Exactement. Et
basta,
le
c'est ça.
client crée son compte
Excellent.
Stripe, le connecte à Snipcart. Et toi, tu fais rien en fait. T'as rien à faire.
Et du coup, en termes de dev, assez facile à implémenter, ou quand même t'as rencontré des problèmes sur l'intégration, ou en fait sur l'orchestration un petit peu, je sais pas
Alors,
si ça se dit d'ailleurs, sur tout ça.
de base, c'est assez facile à implémenter, clairement.
D'accord.
Déjà, ils ont une doc qui est bien. Des fois, il faut chercher un petit peu, mais elle est pas mal. Et c'est assez facile à implémenter. Après, ça se complique quand tu as un client qui veut certaines choses un peu spécifiques, notamment en termes
Du genre.
de livraison, par exemple. Donc, j'ai découvert
D'accord.
des choses au fur et à mesure de la demande, parce que toi, nous, on est dev, on voit les choses d'une façon, et le client, lui, il veut faire des ventes, donc il voit les choses d'une autre façon. Donc, il te demande, eh, ça c'est possible, et ça, est-ce qu'on peut faire ça, machin. Et toi, tu essaies de voir, tu vas voir la doc, tu cherches, machin, est-ce que c'est possible, tu réfléchis. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai réussi à faire tout ce qu'on m'avait demandé, en fait. Donc, j'étais assez
Excellent.
étonné, en fait. Assez étonné de pouvoir, de pouvoir personnaliser, customiser les services qui sont dans Snipcart. Donc, ouais, bonne surprise de ce côté-là, ouais.
Excellent. Et du coup, est-ce que le client, lui, on va dire pas le client final, mais
La
le
boutique.
propriétaire de voilà, la boutique, est-ce que elle a eu des complications à utiliser Snipcart, ou pour elle, en fait, c'est totalement transparent aussi, et elle a une interface Snipcart où elle peut, je sais pas, rentrer son stock, changer ses prix ou des choses comme ça?
Alors, le site, comme il est conçu, il tourne autour de Donc c'est Gatsby. J'utilise des Markdown pour des fichiers Markdown pour la gestion des produits. Donc
D'accord.
voilà.
Ah
Donc
ouais.
mes produits sont dans des fichiers Markdown. Il y a le FrontMeter qui gère tout ce qui est des caractéristiques, le prix, la catégorie, etc. La TVA, toutes les choses comme ça qui sont vraiment dans le Markdown. Donc ça affiche les produits. Donc Gatsby récupère le Markdown et tu fais ta requête GraphQL, t'affiches tes produits. Et à partir de là, moi j'ai des attributs, je les rajoute au niveau du button pour mettre dans le panier, qui viennent du FrontMatter. Et donc là, tout ce qui est gestion des produits, c'est vraiment Gatsby qui le gère. C'est pas du tout Snipcart à ce niveau-là. Ouais. Et ensuite,
D'accord. Et du coup, est-ce que tu as une gestion du stock ou
ouais.
pas?
Alors justement, ça c'était une demande de la cliente. Snipcart permet une gestion du stock, une gestion inventaire. En fait, ils appellent ça inventaire. Et
D'accord.
donc, il y a une. Alors, comment ça se passe? Snipcart va aller chercher les produits que tu vends sur ta boutique sur le site. Donc, il y a différentes façons de l'implémenter. Mais le plus simple, c'est juste tu mets tes produits, une liste de produits avec tes boutons qui ont une classe particulière. Et lui, il va fetcher tout ça et il récupère tous tes produits. Donc, du coup, tu te retrouves avec une liste de produits dans le dashboard de Snipcart qu'il a été cherché sur ton site. Et à partir de là, tu peux leur mettre du stock. Donc, tu vas dire tel produit, il a 0, tel produit, j'en ai 2, tel produit, j'en ai 3. Et donc, spécifiquement pour ce site, ce que j'ai fait, c'est que c'est Gatsby, c'est un site statique, mais c'est aussi dynamique. Donc, ce que je fais, c'est que j'ai fait une fonction Netlify qui va appeler l'API de Snipcart de ce compte. Je vais chercher les produits avec le stock. Et moi, derrière, quand la personne se connecte la première fois sur le site e-commerce, je vais mettre à jour. En fait, je fetch en fait tous les produits. Et ceux qui ne sont pas dispo, je ne mets pas disponible. Ou alors, voilà. Donc, je gère en dynamique le stock en temps réel. En fait.
Ok, donc en fait, si j'ai bien compris, tout l'affichage des produits, c'est du statique pur. Ouais. Par contre, le nombre la gestion du stock et le nombre de produits disponibles, là, c'est du dynamique, basé sur la fonction inventaire de Snipcart.
Exactement.
Donc en fait, tu mets à jour juste le nombre d'éléments disponibles.
Exactement, la cliente met à jour le stock sur son Snipcart, sur son dashboard, et instantanément, le site est mis à jour, en fait. Puisque c'est dynamique. À chaque fois que tu vas sur le site, tu as un appel, une requête.
Ok, donc du coup, tu as une requête en fait qui part à chaque
entrée.
Alors, je sais pas comment à chaque entrée du site ou à chaque affichage
du produit.
Je sais pas.
Ça se fait qu'une seule fois, comme c'est un Gatsby, et que c'est une application web. T'as qu'une fois où c'est chargé complètement et que ça fait l'appel. Donc, du coup, ça le fait une fois à chaque fois que tu visites le site. Du coup, c'est vraiment dynamique et instantané, en fait. Tu mets un stock à zéro, deux secondes après, c'est disponible sur le site. C'est plus disponible sur le site. Donc ça, c'est plutôt magique. Ils ont une API où on peut faire pas mal de choses. On peut faire des appels, tout ça. Donc c'est pratique.
Ah ouais, donc en fait, tu peux quand même avoir un peu une sorte de business logique si tu veux gérer ton inventaire, peut-être récupérer tous tes clients si tu veux, l'implémenter sur une sorte de CRM ou des choses comme ça. En fait, tu peux extraire toutes ces données pour justement créer la campagne marketing.
Tu peux brancher. Il y a une API qui est assez complète et tu peux vraiment récupérer tes commandes, tes clients, tout.
Et aujourd'hui, tu penses, est-ce qu'il y a des notions de seuil en fait ou pas du tout? C'est-à-dire, tu vas me dire, Snipcart, ça va être bien jusqu'à une certaine volumétrie de produits. Ou ça va être qu'à l'usage, en clair, est-ce que j'ai 3000 produits, est-ce que Snipcart est adapté, ou on va dire pas du tout. Par contre, si j'ai que 2-3 produits, Snipcart est plus adapté. Si je commence à avoir 200, 300, 10 000 produits références, peut-être il faut une autre solution. Est-ce que toi, avec ton recul, tu as déjà un petit peu cette notion de scope et d'échelle, de fourchette de produits ou de limitation, en fait?
Ouais, bon, à mon avis, je pense que Snipcart est très adapté pour ce type de projet où là, typiquement, elle doit avoir 30 ou 40 produits disponibles sur la boutique. Je pense que c'est très adapté sur ce type de boutique. À mon avis, Snipcart n'est pas adapté sur un site e-commerce beaucoup plus complexe et avec beaucoup plus de produits. Je ne pense pas que ça soit vraiment gérable via le dashboard. Et surtout, il y a une chose qu'on n'a pas encore dit, en fait, c'est au niveau du tarif. Puisque, au niveau tarif, alors, c'est assez simple. Hein, Snipcart prend 2% sur le chiffre d'affaires que tu réalises. Et ensuite, tu as la commission aussi sur Stripe. Donc, du coup, ça fait, je ne sais plus.
Ouais, qui elle, est, en fait, est transparente, quoi. En fait, cette fonctionnalité de Snipcart, en fait, leur business model, c'est gratuit à l'usage. Et en fait, tu payes la vente, ouais. Donc, en fait, c'est une sorte de SaaS, de SaaS e-commerce, quoi.
Ouais. En fait, si tu ne fais pas un chiffre d'affaires, je crois que c'est 400. Je vais regarder sur le site. Si tu es en dessous de 462 €, ils te prennent 9 € en tout. Oui. Et si tu es au-dessus, ils te prennent 2%. Voilà. Donc, Donc, si tu fais,
Ah, ok.
ouais,
Donc,
tu vois,
si tu as un tout petit volume,
voilà,
c'est 9 euros
c'est
par
9
mois,
euros.
c'est ça?
Non,
Et
après,
ok.
au-delà, c'est 2% de commission. Et Stripe prend,
Ok.
donc Stripe, pour les cartes européennes, ils prennent 1,4% plus 25 centimes d'euros par transaction. Donc, en gros, ça fait
Ok.
3,4% plus 25 centimes d'euros à chaque vente sur le site. Donc, voilà, il y a quand même un coût. Ça veut dire que plus tu vas faire de ventes, bah, plus tu vas payer de commission à Snipcart. Bon, après, voilà, il y a un moment donné, il faut payer aussi. Mais c'est évidemment, je pense qu'il y a des solutions peut-être un peu plus avantageuses au niveau financier quand tu fais du gros volume. Donc, parce que tu peux très bien développer ta
Ouais,
solution
après,
e-commerce, hein, et avoir que Stripe en fait à payer en commission. Donc, à voir,
Bien
ça
sûr,
discute.
mais par contre, en fait, je pense que c'est du déplacement de budget. Enfin, je
Oui.
sais pas, moi je vois ça
Ah oui, c'est
en
clair.
termes de dev freelance où, bah, en clair, c'est juste un déplacement de budget parce que si ton site WooCommerce ou je sais pas quoi, il te coûte le prix avec tous les problèmes que ça amène, là. Tu vois, enfin,
Oui.
ça se calcule aussi pour tester un marché ou pour des boîtes, je pense surtout sur les startups qui vendent un ou deux produits. Bon, bah, au départ, ils n'ont aucune idée si ça peut marcher ou pas. Enfin, tu vois, sur une approche vraiment itérative, bah, tu peux lancer ton business, ton e-commerce pour pas cher et tu payes à la commission. Et bah, si tu fais beaucoup d'argent et tu payes beaucoup de commissions à Snipcart, bah, tant
Tant
mieux, ça
mieux,
veut dire que tu as un bon problème
c'est clair.
et parce que tu vends. Et donc à ce moment-là, tu pourras peut-être aller essayer d'optimiser les coûts. Par contre, bah, si tu ne vends pas, bah, au moins tu n'as pas à dépenser des sommes astronomiques sur la mise en place d'un e-commerce où tu as développé une usine à gaz
Oui,
pour vendre
tout à fait.
trois produits, quoi,
Non,
qui en plus ne vend pas, quoi.
t'as
Donc,
assez raison.
je pense qu'en fait, c'est juste un déplacement de budget. Par contre, ouais, il y a peut-être une éducation. Est-ce que ça posait problème, le fait justement de payer les commissions? Donc, 3, on va dire 3 points plus, enfin, 3,4% plus 25 centimes sur la
Bah,
transaction. Ça a été un frein pour le client ou pas du tout?
dans cette comment dire dans cette situ dans la situation où on est en fait où elle était complètement fermée, donc aucune rentrée d'argent, et sa seule solution pour rentrer un petit peu d'argent, c'était de faire cette boutique. En fait, non, c'était pas un frein parce que de toute façon elle n'avait pas le choix. Donc après ouais, c'est ça en fait, c'était ça ou tu rentres rien,
En
donc
fait, il vaut mieux avoir 90% de quelque chose
voilà.
que 100% de rien,
Donc
quoi.
dans ce cas précis, non,
Ouais.
c'était pas un problème. Après, j'ai été très clair avec elle sur les commissions, combien ça coûtait, etc. J'ai
Bah,
même,
il faut être transparent,
ouais, j'ai eu un doute
évidemment.
même à
Ouais,
un
c'est
moment
clair.
parce que Stripe prennent plus de commissions sur les cartes américaines. Donc à un moment, j'ai eu un doute. Je me suis dit, mais attends, Snipcart, c'est au Canada.
Oui.
Est-ce que en étant au Canada, ça va être considéré comme une carte européenne ou quoi? Non, finalement, c'est quand même considéré comme une carte européenne, donc la commission était bien de 1,4%. Mais j'ai quand même fait un test, tu vois. Donc j'ai vraiment essayé d'être le plus, tu sais, d'avoir le moins de surprises, de mauvaises surprises après, quoi. Donc,
Ouais, bien sûr.
mais après, ouais, ce que tu dis, c'est tout à fait juste. Là, on paye une commission, mais en même temps, en développement, ça coûte beaucoup moins cher. Ouais, effectivement, si tu pars sur Shopify, bah, ils ont aussi 2% de transactions, et en plus, tu payes un abonnement mensuel. Enfin. Parce que j'ai regardé aussi Shopify, hein, parce qu'il y a des gens qui essayaient de faire des
Bien sûr.
Shopify pour le confinement. Shopify, c'est pas forcément le plus économique non plus. Et après, ouais, effectivement, si tu pars sur un développement de site, alors moi j'ai vu des commerçants sur Annecy là qui ont lancé des nouveaux sites de vente avec des WooCommerce, mais franchement, le résultat il est vraiment moyen. Et puis c'est pareil au niveau. Enfin aujourd'hui, je sais pas ce que t'en penses, mais les plateformes e-commerce. Enfin, je sais pas, moi, c'est pas très glamour, hein, tout ce qui est Magento, PrestaShop, etc. Enfin, ça donne pas
Moi, je pense
envie.
qu'il y a une notion de seuil, je pense, tu vois, parce que Snipcart avec 100 000 refs, tu vois, bah ouais,
Ouais.
c'est peut-être compliqué, tu vois. Après, il faut se tourner vers d'autres solutions qui, eux, ouais, sont vraiment adaptées. Mais enfin, j'ai pas testé et implémenté Snipcart, mais je pense que ça me paraît vraiment idéal pour des commerces. Avec assez peu de refs,
Je pense que c'est l'idéal,
peu de
ouais.
références, ou avec un développement mano, on va dire voilà, on fait un site statique pour éliminer tous les problèmes, hashtag Jamstack. On va pas revendre la vertu de la Jamstack, et je pense qu'en plus s'il y a des API et derrière avec du serverless, on peut faire toute la connexion. Et puis ouais, même ça se trouve, je sais pas s'il y a une implémentation avec Zapier, mais ça se trouve on a même pas besoin de coder, quoi. C'est-à-dire on peut implémenter Snipcart avec Zapier et après pour automatiser la mise en place d'un CRM, de Mailchimp, de tout ça. Donc je pense qu'il faut repenser toutes les fonctionnalités des grosses usines à gaz qui sont hyper coûteuses à implémenter, à appréhender aussi. Ouais, il y a peut-être des notions de seuil à trouver, mais ouais, moi je suis convaincu que plus c'est léger, plus c'est modulaire, et plus on arrive à avoir une qualité à la sortie qui est super intéressante.
Ouais, je pense que ce que tu dis, avec l'API, je pense qu'il y a certainement moyen de faire, si vraiment tu as beaucoup de références, de brancher ça avec un petit back-office simple. Là dernièrement j'ai discuté avec une e-commerçante qui a un WooCommerce, donc pour vendre des vêtements, et elle y va jamais dessus, en fait, parce que son WooCommerce est branché à un CRM, je sais plus le nom, qui est assez connu là, et en fait elle fait tout via le CRM.
Salesforce?
Non, c'est pas Salesforce, c'est un autre là, tu sais, qui est... je t'avais demandé, je crois, pour
PipeDrive.
Non, je sais plus, mais bah,
HubSpot.
Non, j'ai oublié le nom, mais en fait elle se branche jamais sur son WooCommerce, elle fait tout. En fait, le CRM est branché au WooCommerce et elle gère ses produits et ses commandes, tout ça, via le CRM. Donc, effectivement, quand tu vois cette utilisation, tu te dis, quel intérêt, en fait, d'avoir un WooCommerce ? Peut-être Snipcart avec l'API, je peux faire la même chose. Donc, ouais, c'est à discuter, c'est à voir, en fait. Après, ça dépend peut-être, c'est à discuter, c'est à présenter au client différentes options et puis voir avec le volume.
Je pense qu'il faut vraiment écouter et écouter le besoin et appréhender aussi l'utilisateur, c'est-à-dire le commerçant, le e-commerçant, en fait, qui va vendre ses produits, quelle est son appétence et sa capacité à gérer un outil informatique. Tu vois, si l'outil qu'on lui en met dans les mains, c'est une usine à gaz et il lui faut je ne sais pas combien de temps pour l'appréhender, ça va être compliqué. Il y a aussi s'il est tout seul, s'il y a une équipe, s'il faut implémenter une sorte de gestion des droits, quelles sont aussi les ambitions de la boîte. C'est-à-dire, OK, aujourd'hui, on a 10 refs. Par contre, on a pour ambition dans l'année de passer à 10 000 refs. OK, est-ce que ça scale ? En fait, c'est comme tout. Je pense qu'il n'y a pas de solution miracle absolue à tout. Ouais. Tout est custom. Et je pense qu'il y a un outil pour chaque usage. Et avoir différents outils, en tant que nous, dev, c'est super intéressant de savoir, OK, j'ai Snipcart en possibilité. J'ai différentes solutions. J'ai différents outils dans ma boîte à outils, quoi. Et après, je viens chercher l'outil le plus adapté à mon client. Et ça, c'est la discussion avec ton client, ou quel est clairement son besoin, la définition de son besoin. Super important.
C'est clair. De toute façon, c'est notre rôle, de toute façon, de présenter différentes options. De pas rester bloqué sur moi je fais que du WordPress et du WooCommerce et voilà, ça va faire tout. Non, c'est bien d'avoir différentes options. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait, je lui ai présenté, je lui ai dit j'ai Snipcart et j'ai aussi WooCommerce si jamais tu veux partir sur un WordPress, qu'est-ce que tu préfères. Elle a choisi Snipcart. Après elle a choisi Snipcart, elle savait pas vraiment, elle m'a fait confiance, mais par exemple le coût du statique, je lui ai pas vraiment expliqué parce que de toute façon elle, c'est pas qu'elle s'en fout, mais elle vend son produit. Après comment ça marche derrière,
Exactement.
C'est pas son problème. Souvent les personnes comme ça, effectivement comme tu dis, ils ont pas forcément le temps de passer des heures sur l'admin à gérer tout le truc. Donc c'est vrai que l'admin, si elle est facile à prendre en main, c'est vraiment c'est un avantage. Et puis
Exactement. Après, tu sais, on dit souvent que quand on est vendeur de marteaux, on voit des clous partout, quoi.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Parce que dans ma boîte à outils, j'ai qu'un marteau, donc je vends que des marteaux, donc tout problème est un clou. Non, je pense pas. Je pense qu'il faut vraiment discuter Et je pense que aussi le plus important, c'est quand même que la relation de confiance que tu as avec ton client, tu vois, où ton client, lui, il a entendu parler de WooCommerce. Donc évidemment que ça va sortir à un moment donné dans la discussion. Mais à la fin, c'est quand même toi le pro et c'est toi qui a un devoir de conseil et d'être le plus exhaustif justement sur ton choix. Mais pour moi, c'est quand même toi qui reste le pro et qui doit guider et un petit peu éduquer aussi au moment, enfin, si le client a besoin pour faire les bons choix, quoi.
Ah ouais, donc,
donc ouais, non, ça c'est plutôt cool. Et en termes d'hébergement, t'as mis ça sur quoi?
Alors j'ai utilisé Netlify. C'était la première fois que j'utilisais Netlify. J'avais peu d'expérience dessus. J'avais juste joué un petit peu avec. Moi, j'étais plutôt sur Now et d'ailleurs qui viennent récemment de changer un petit peu leur concept. Et
je crois qu'ils ont changé de nom, non?
Oui, ils ont changé de nom, mais ils ont aussi réorienté. Je sais pas trop en fait. En gros, ils ont réorienté leur business un peu vers ce que fait Netlify. En fait, ils sont plus partis vers du SaaS.
Ok.
Mais le système est génial. Now, c'est. Enfin, moi, j'adore le système. Là, j'ai encore utilisé dernièrement. C'est vraiment top. C'est différent. La tarification, tout ça, est différente de Netlify. Mais Netlify, ouais, c'est. J'avais peu d'expérience avec. Là, j'ai mis vraiment les mains dedans. Et enfin, toi, t'es un gros fan de Netlify. Et j'avoue que.
Oui.
Bah, c'est top. Quoi. C'est top. C'est surtout très facile à utiliser. Et. C'est en fait tu te demandes après pourquoi tu passes autant de temps à régler tes serveurs tout ça quand tu utilises Netlify en fait en deux secondes tu mets ton site en ligne machin. Enfin, c'est magique
mais bien sûr après je vais pas faire l'apologie de Netlify parce que enfin de manière très exhaustive c'est sûr quand t'es tout seul et que t'as pas d'équipe bah ouais t'as pas de DevOps avec toi quoi donc ta mise en prod là elle est d'une simplicité tu peux rollback comme tu veux tout bah ouais c'est simple quoi c'est super simple c'est rapide et c'est facile après il y avait des limites enfin il y a aujourd'hui des limites sur ton nombre de builds et t'avais un peu une appréhension là-dessus
J'avais une appréhension parce que alors le système il est assez comment ça fonctionne je vais expliquer un petit peu donc j'ai forcément le code hébergé sur GitHub bon ça aurait pu être GitLab hein, mais là je suis sur GitHub donc tout mon code source est sur GitHub donc mon site Gatsby est développé et hébergé là-bas donc pour la gérer l'admin je lui ai rajouté une couche avec Forestry donc qui permet de gérer alors Forestry aussi super système qui permet de gérer les fichiers Markdown. Et donc, ça fait une admin.
Alors, Forestry, juste petite parenthèse, si tu me permets. Forestry, en fait, c'est un CMS headless. C'est-à-dire, c'est un gestionnaire de Content Management System basé sur du Markdown. Et tu viens plugger ça directement sur ton site statique.
Ouais.
Donc, tu as un CMS au-dessus d'un site statique.
Ouais.
C'est ça.
Ouais, c'est ça, en fait. Forestry marche essentiellement avec des fichiers Markdown. Donc, tu as un fichier de config où tu définis donc tes sections. Donc, moi, il y avait des pages et des products. Et ensuite, tu définis les champs que tu vas utiliser pour remplir le front matter. Et ensuite, tu as une zone éditable pour tout ce qui est le contenu classique. Donc, c'est vraiment...
Donc, ton client, c'est-à-dire le e-commerçant, elle a accès via Forestry.
Les produits, elle les gère via Forestry. Elle gère les pages du site et les produits, parce que je lui ai mis une petite section page pour qu'elle puisse rajouter des pages, mentions légales, etc. Donc, elle gère tout ça par Forestry. Donc, c'est une admin qui est plutôt hyper épurée, simple. Elle l'a pris en main, mais j'ai même halluciné. En fait, je n'ai même pas expliqué en fait, comment ça marchait. Elle avait déjà édité des produits. Je n'avais même pas eu le temps de lui expliquer. Donc, vraiment, c'est hyper simple à utiliser. C'est vraiment bien fait. Ça se plug vraiment très rapidement. Tu fais ton fichier de conf à la main ou tu peux le faire via l'admin Forestry. Mais voilà, en une heure et demie, t'as tout configuré et t'as une admin. Voilà, t'as une admin pour ton site. Donc là, je lui ai donné un accès là-dessus pour tout ce qui est gestion des produits, les photos, la description, etc., les prix, les TVA. J'ai rajouté plein de possibilités. puisqu'il y a plein de choses qui sont utilisables au niveau de Snipcart. Et ensuite, donc à chaque fois que moi je fais un changement au niveau du code ou elle fait un changement au niveau du contenu via Forestry, Netlify est branché sur GitHub, donc automatiquement il va déployer le site. Donc il y a un auto-deploy Netlify, et donc ça déploie le site sur Netlify, et il est disponible dans sa dernière version. Donc je lui avais expliqué, puisque elle, c'est pas trop statique, dynamique, etc. J'ai essayé de lui expliquer, mais bon. Je lui ai juste dit, bah écoute, quand tu fais une modif sur Forestry, bah en général, ça prend à peu près 1 minute 30 pour être en ligne. Il m'a dit, ouais, ok, d'accord, ça marche. Et puis, bah voilà, il n'y a pas de problème en fait.
Terminé.
Ok.
Problème terminé. Alors que nous, on était là, non mais 1 minute 30.
Ouais, nous, on est toujours stressé en fait.
C'est 90 secondes. T'es là, ah ouais. Et le client, bah, okay, bah ok, c'est normal.
Pas de problème.
Ouais, ouais. Ok, bon bah voilà.
Donc c'est pour ça qu'on est des fois un petit peu plus flippé que les clients en fait. Enfin eux, voilà, son intérêt c'est de pouvoir éditer les produits sans passer par nous en fait, en gros, hein, sans passer par un dev.
Elle est... Bien sûr, être autonome, voilà, être autonome sur la gestion de son contenu,
et puis,
évidemment.
Et puis ça se met en ligne tout seul, 1 minute 30, c'est pas la folie. Voilà, donc ouais, Netlify, il y a des limites aujourd'hui de 300 minutes de build. C'est pas tellement limité au niveau du nombre de builds, mais plus au niveau des minutes de process. Et au début, ouais, j'étais un
peu... Et tu peux pas optimiser ton build ?
Alors ouais, tu peux optimiser, tu mets du cache, etc. Mais j'ai essayé différents trucs. Il y a même... comment ça s'appelle ? Gatsby, ils ont sorti un nouveau système de build incrémental. J'ai essayé tout ça, mais ouais, finalement, bon, 1 minute 30, 2 minutes maxi, c'est pas énorme. Et bah, au début, elle faisait beaucoup de modifs, en fait. Forcément, hein, tu mets le site en ligne, déjà tu remplis toutes les descriptions, tout ça, tu revois un petit peu des fautes, tout ça, tu complètes un peu tout ça. Donc au début, ouais, je voyais les builds qui augmentaient, machin, je me dis, oh là, je sais pas si les 300 minutes ça va suffire.
Tu commençais à stresser.
Ouais, je commence à stresser. Et puis au bout de, voilà, en gros, on a mis le site en ligne, elle faisait encore quelques modifs, elle rajoutait des trucs. Et puis après, bah, ça s'est arrêté tout simplement. Elle a commencé à gérer son stock sur Snipcart et ses commandes, donc elle touchait quasiment plus les produits, puisque ces produits finalement, voilà, il les vend et puis elle en implémente pas des nouveaux tous les jours. Donc, bah en fait, voilà, après, pendant 10 jours, elle a rien modifié en fait, du tout. Donc, tu te dis, bah ok, bah c'est bon, ça passe en fait. Et là, je crois qu'il me reste, ouais, on est large quoi en fait, il reste peut-être 100 minutes de build et il reste 10 jours, donc on est large, large, vraiment large.
Ouais, et puis de toute façon, elle va sans doute pas les modifier. Enfin, je pense que la description produit, elle va pas la changer tous les mois
ou même toutes les semaines. Elle va rajouter quelques produits là. Elle m'a dit qu'elle voulait rajouter quelques produits salés et tout ça. Mais franchement, là-dessus, ouais, c'est bon.
Et simple, ok, parfait. Et côté image, c'est stocké où ?
Alors, pour l'instant, c'est stocké sur GitHub. C'est stocké sur GitHub puisque Gatsby a un système d'image qui est très bien fait, qui optimise les images au niveau du build, et donc il te fait différents formats, etc. Donc c'est un système qui est super optimisé, donc j'utilise ça en général. Donc ça passe très bien.
Ok, mais est-ce que le client a la main pour faire une mise à jour de, je sais pas, par exemple, elle a un cookie, elle a fait un nouveau cookie, elle prend en photo son cookie et elle l'intègre directement depuis Forestry et ça va dans ta codebase et ta codebase est mise à jour
sur ta fiche produit. Tu as un champ photo et tu télécharges la photo. En fait, sur Forestry, tu as une gestion des médias. Donc, par contre, c'est pas multi-dossier, c'est juste un dossier upload qui est dans ton Gatsby, dans ton projet, et il te met les photos dans ce dossier, et après Gatsby le récupère avec le chemin, et puis voilà, il la met en ligne. Non, c'est elle peut, elle gère complètement les photos, tout.
Ça peut amener des problèmes sur le scale, quoi. C'est qu'en fait, à chaque fois qu'elle met à jour un produit avec une image, ça vient charger ta Godbase, quoi. Du coup, est-ce qu'il n'y aurait peut-être pas moyen de mettre ça sur un Cloud Inery ou S3 ou un truc comme ça ?
Il y aurait... Oui,
je pourrais... Peut-être dans une amélioration, quoi.
Oui, tout à fait. Je pourrais très bien mettre ça sur Cloud Inery. Et après, je resterai quand même sur le système de Gatsby Image qui est vraiment, vraiment bien. Et du coup, au niveau du build, j'irai quand même télécharger la photo pour la mettre sur Netlify. en hébergement okay. sur Netlify. Mais oui, je pourrais très bien la mettre sur Cloudinary pour éviter de charger le code GitHub, enfin le compte GitHub. Mais sur 30 ou 40 produits, pour l'instant, ça va, quoi.
C'est pas un point bloquant. Mais en tout cas, ouais, c'est un truc intéressant. Mmh. Ouais. Excellent. Excellent, excellent.
Et du coup...
ce plugin, ouais, dis-moi.
Non, du coup, je voulais juste finir sur Netlify, en fait. Parce que j'avais...
Ouais, bien sûr.
Netlify, donc on avait système de build automatique, machin, tout ça. Et j'ai aussi, donc on en parlera peut-être après, mais j'ai fait des... Donc pour la gestion, par exemple, du stock en dynamique, yes. j'ai utilisé les fonctions Netlify. Donc c'est une fonction Netlify qui va chercher, qui fait un appel à l'API. Snipcart pour récupérer le stock à chaque fois. Donc je fais un fetch directement sur une URL de l'hébergement Netlify et donc il me répond et puis voilà. Donc j'appelle même pas une URL externe. Donc, c'est vraiment une fonction Netlify. Et puis donc il y a aussi une gestion fonction qui gère la livraison. On en parlera après dans les customisations de Snipcart, mais et aussi le formulaire. Donc on a dans la version gratuite on a une centaine de messages possibles. Par le formulaire, le form. Et donc, je lui ai mis un petit formulaire pour que les gens puissent la contacter.
C'est un formulaire de contact classique?
Ouais, j'ai fait un formulaire de contact en React qui est en Ajax, entre guillemets, comme on dit. Donc, voilà, mais ça marche très, très bien. Ouais. Tu as une centaine de messages. Donc, pour quelqu'un qui a une boutique, enfin, pour un site classique qui a un trafic assez moyen, quoi, je pense que sans messages, tu as largement de quoi faire. Donc,
ouais, après 100 messages, ça veut dire 3 demandes de contact par jour à peu près. Ouais, sur 30 jours, c'est 3 demandes par jour. Est-ce que tous les sites aujourd'hui ont 3 demandes?
Non, je ne suis pas sûr.
Voilà. Bon,
je gère plusieurs
problème sites. Terminé. Donc, ouais, non, c'est clair.
Il n'y a pas tant de ça de messages.
Excellent. Hein. Et sur l'appréhension du serverless et des fonctions Netlify, simple ou pas?
Ouais, c'est facile. En fait, au début, j'ai un peu galéré. J'ai eu des problèmes jusqu'à il n'y a pas longtemps sur les fonctions Netlify. Je ne sais pas pourquoi ça déconne. J'ai eu des problèmes de fonctions entre... Tu sais, je développe en fait avec la ligne de commande et je déploie via la ligne de commande Netlify sur l'ordi.
Oui.
Et j'avais aussi le déploiement automatique de GitHub. Et en fait, je ne sais pas, il y avait des problèmes en fait. De temps en temps, j'ai eu des soucis entre les fonctions qui ne se lançaient pas en fait sur Netlify. Et c'était variable en fait, soit ça venait de la fonction quand je la déployais via la ligne de commande, soit c'était la fonction qui se déployait via GitHub, et je sais pas trop ce qui s'est passé. Alors j'ai pas, du coup au final j'ai réussi à régler le problème en changeant le nom de la fonction, j'en ai créé une nouvelle avec qui faisait exactement la même chose, j'ai changé le nom et là j'ai plus de problème.
Donc, ah, il y a peut-être des noms un peu interdits,
non? Ouais, je sais pas trop, donc j'ai eu juste ce problème là au niveau des fonctions, mais sinon dans l'ensemble bah, Netlify, c'est pas mal. Même en ligne de commande, bah, finalement, une fois que tu connais un peu les deux, trois commandes, bah, c'est pratique. C'est pratique.
Le Netlify function 2.create.
Ouais,
et tout ça.
Et il y a un truc qui est top aussi. Alors, il faut le savoir, justement, parce que quand tu as un compte gratuit, tu es limité à 300 minutes de build. Et ben, en fait, quand tu développes, tu fais ton build avec la ligne de commande, Netlify build. Et en fait, tu fais ton deploy via la ligne de commande. Et du coup, le deploy se fait en. Te compte juste ces 2-3 secondes en fait dans ton quota de build en fait du compte Netlify. Du coup, au lieu de Excellent. Mettre 1 minute 30, 2 minutes, c'est juste 3 secondes. Donc, donc il faut le savoir, quand on développe le site, il vaut mieux déployer via la ligne de commande que de déployer via le GitHub parce que ça te fait gagner beaucoup de quota. Ça c'est important. À faire attention à ça.
Et par contre, est-ce que si tu as déjà buildé sur en local et tu as déployé, est-ce que au moment où tu vas faire ton commit, en fait non, il faut faire ton commit.
Ah oui.
Et après tu déploies. En fait, c'est soit l'un soit l'autre quoi. C'est soit tu branches ton GitHub, soit tu branches ton.
Ouais, il faut débrancher.
Soit tu fais ton build.
Ouais, effectivement. Ouais, effectivement, parce que du coup, si tu déploies, alors après il faut jouer avec ça, ou alors tu le débranches complètement. Tu débranches ton GitHub de Netlify le temps que tu développes et tu déploies que via la ligne de commande, ou tu envoies sur le GitHub moins souvent, mais parce que ouais, effectivement, ouais, si tu déploies après tu renvoies sur le GitHub, ça va faire deux builds identiques l'un après l'autre.
Ouais, t'as un build en local et
Ouais.
un build automatique.
Donc, ouais.
Ok, bon, ça, c'est des trucs à tester.
Ouais.
Excellent. Donc, plutôt convaincu par Netlify, en fait.
Ouais, totalement, totalement convaincu et ouais, c'est clair, c'est, je pense que
C'est facile, quoi.
ouais, c'est facile et je pense vraiment le réutiliser. Voilà, donc bon petit produit. Après, la version gratuite est, bah, voilà, elle est gratuite, mais après la deuxième version, je sais plus combien c'est, 40$ ou un truc comme ça. Bon, c'est pas si cher non plus parce qu'après, bah, si tu as plusieurs sites, machin, tout ça, que voilà, tu as des clients, bah, c'est pas si cher que ça. Donc, enfin, à mon avis, quoi, je sais pas ce que t'en penses. Mais... 45$ par mois, donc
Ouais.
c'est pas.
Après, je pense que bah, c'est comme tout, hein. C'est est-ce que t'as pas meilleur temps de créer un compte pour ton client et c'est lui qui paye
Ah
et
oui,
tout
c'est ça.
ça. Tu vois, moi je suis pas trop partisan de marger là-dessus et je préfère que mon client il me paye pour la prestation que je lui fournis, que ça soit du support, que sais-je, mais
Oui.
comme ça, c'est lui qui paye Netlify. C'est lui, en fait, et je suis totalement transparent sur les outils. Et lui, il paye les outils. Et moi, il me paye sur mon savoir-faire et mon service. Après, c'est ma vision. Il y a d'autres personnes qui vont facturer de l'hébergement. Et ils vont prendre un spread dessus. Voilà, ils payent leur OVH 20 balles ou 50 balles à l'année, et ils facturent 200 au client parce qu'ils partent du principe. Très bien, enfin voilà, c'est comment tu factures et comment tu gères ta relation client, tout.
Oui, on
Mais
est d'accord.
moi,
Ouais.
moi, je suis plutôt partisan de.
On est totalement d'accord là-dessus.
Bah,
On est en phase. Ouais. Moi, je préfère aussi
ouais,
que ce soit transparent, que le client ait son compte. Et puis, voilà, je suis pas du style non plus à faire de la marge sur l'hébergement, tout ça. Je sais qu'il y a des agences qui marchent sur l'hébergement, sur les plugins, enfin sur plein de
Ah,
trucs.
mais
C'est pas mon style,
oui.
ouais, moi.
Ouais, mais après, c'est leur business model.
Oui, c'est
Après,
leur business, ouais.
c'est pas grave. Après, moi, je préfère, en fait, après, on revient plus sur la gestion commerciale et de la gestion vraiment de ton client. Mais moi, je préfère être super clair et transparent. Et surtout, en fait, il n'est pas tributaire de Alex Duval, quoi. Si demain, il veut partir et aller
Exactement.
voir et travailler avec un autre prestataire, il peut et il a tous ses accès. Il me révoque mes accès et c'est terminé. Et je pense que le lien commercial que j'aurai à travers ça, de lui dire tu as toutes les clés, tu peux me sortir quand tu veux, je pense que le lien est d'autant plus fort que justement il peut partir à tout moment. Et c'est lui qui fait le choix volontaire de rester et de continuer à travailler avec moi. Et je pense que le lien est d'autant plus fort encore, je pense.
Ah oui, ouais, mais je suis pareil, j'ai le même esprit. Enfin, je ne veux pas loquer le client. Si demain il veut partir, il a, voilà, on n'est pas à l'abri d'un changement de stratégie ou quoi, ou n'importe. Il trouve, enfin voilà, si tu veux partir, tu pars, il n'y a pas de souci, on n'est pas menotté. Donc, oui, c'est pour ça que les
Bah ouais.
accès, donner tous les accès, être transparent, comment ça marche, tout ça, c'est très important. Ouais. Enfin, en tout cas, je
Ouais,
fonctionne aussi comme
carrément.
ça. Ouais.
Et tu m'as dit que tu avais publié ce module, on va dire, de Gatsby Snipcart, tout ça. Tu peux nous en dire plus?
Oui, alors c'est simple. Donc pour le site, là, j'avais développé un plugin parce qu'au niveau de Gatsby, tu peux utiliser des plugins entre guillemets, hein, c'est pas des plugins WordPress, c'est des plugins NPM que tu rajoutes et que tu configs. Et tu peux.
Mais qui sont spécifiques à
Ouais,
Gatsby,
c'est
c'est
spécifique à
ça?
Gatsby, donc parce que enfin, voilà, il y a des fichiers spécifiques à Gatsby et tu rajoutes une brique à Gatsby pour éviter de la coder. Tu peux le faire soit en rajoutant un module NPM, soit tu peux le faire en local. Tu peux aussi tu me fais un dossier plugin et tu fais un plugin dedans et tu l'utilises dans ton site. Donc moi j'avais codé un plugin local pour utiliser Snipcart. Bah, très bien, machin, tout ça. Et puis je me suis dit, bah, en fait, il y avait un plugin Snipcart V3 qui existait, mais le truc était bah, déjà même plus à jour. Pourtant il n'était pas si vieux, mais il était déjà même plus à jour et puis il faisait pas grand-chose en fait. Et c'était bien dommage puisque Snipcart propose plein de configurations. Donc bah, j'ai optimisé tout ce plugin et puis j'en ai fini par faire un vrai plugin NPM et je l'ai publié. Et puis voilà, donc maintenant il y a un peu plugin NPM qui est un peu plus avancé pour la version 3 de Sneaker, qui est disponible sur la section plugin de Gatsby. Et voilà, ça me fait plaisir de publier un premier plugin sur Gatsby. Et puis après, Snipcart, voilà, je l'ai passé sur Twitter, tout ça, ils l'ont republié. Donc, ouais, j'étais content quoi, de participer un petit peu au système. Cool.
Mais ouais, carrément. Cool. En fait, du coup, maintenant, quelqu'un qui est sur Gatsby, il veut implémenter Snipcart. Ouais. Il le fait de manière beaucoup plus facile et fluide grâce à ton plugin, c'est ça ?
À peu près 5 secondes, je pense. Le temps de.
Dépend toi-même. Bravo, mais... Patrick. Bravo.
Ouais, tu implémentes très rapidement. Et puis,
bravo.
Ouais, c'est cool, quoi. Et puis, j'ai rajouté 2-3 trucs où tu peux récupérer... alors, c'est du React, mais voilà, j'ai rajouté un petit contexte, tout ça, qui te permet de récupérer le nombre de produits que tu as dans ton panier ou savoir si tu es logué ou pas. Voilà, des petits trucs comme ça qui facilitent le développement. Mais ouais, c'est... c'est ça aussi l'avantage de Gatsby, c'est ce système open source de plugins, tout ça, qui te permet de... Enfin, moi, j'utilise déjà des plugins d'autres personnes ont développé, donc pourquoi moi, je participe aussi, quoi. C'est ça, l'open source.
Ouais, bon après c'est ça fait partie de l'esprit un peu open source, et ouais. Excellent. Mais top ça.
Ouais, c'est cool.
Excellent. Et du coup tu vas maintenant un peu pieds poings liés avec Snipcart, où tu vas être obligé de mettre à jour le plugin quand Snipcart va sortir ses nouvelles releases.
Ouais,
tu vas être obligé de mettre à jour la tienne aussi.
Je rassure un petit peu mais ça devrait aller de toute façon. Ouais, ils sortent des versions, je sais pas tous les combien, quoi, peut-être tous les 2-3 mois, donc c'est pas non plus intensif, donc ça devrait aller, quoi. Après, il suffit d'ouvrir une issue sur le GitHub et puis on corrigera. Mais là déjà, t'as déjà pas mal de choses qui sont possibles. Donc, Non, la dernière chose qu'ils ont fait, là, c'est la V12. En fait, moi j'ai commencé, c'était la 3.0.11. Là, c'est la 3.0.12 qu'ils ont sorti il y a 10 jours. Et il y a ce fameux
mineur, quoi.
Ouais, c'était mineur, mais il y avait une fonction qui était très intéressante. D'ailleurs, tu m'avais fait la remarque par rapport au fait que quand tu cliquais sur le bouton ajouter au panier, ça ouvrait automatiquement le panier. Et c'était un petit peu un peu bizarre, en fait. Effectivement, c'est la première chose qui m'avait un petit peu dérangé sur le système. Et du coup, ils ont rajouté une fonction qui permet de désactiver ça. Donc du coup,
excellent.
Tu ouvres plus le panier quand tu cliques sur le bouton ajouter au panier. Par contre, ils n'ont pas fait les choses jusqu'au bout parce qu'ils ont oublié de mettre une fonction qui te permet d'ouvrir le panier au niveau programmation. Donc, du coup, j'ai dû filouter un petit peu, mais j'ai trouvé une solution.
Donc, ils ont modifié le comportement par défaut, mais ils n'ont pas laissé le choix aux devs de
mettre un bouton
style
panier, en fait.
Open. Style open full screen carte ou false, quoi.
En fait, tu le fais via normalement tu le fais via une classe CSS que tu mets sur un élément, et il va trouver cette classe et puis il va dire ok, il va mettre un événement sur le bouton et quand tu cliques dessus ça va ouvrir, sauf qu'avec du React ça marche pas forcément, puisque Vue c'est pareil, puisque tes éléments c'est du virtual DOM, donc ça disparaît. Enfin, ils sont voilà. Donc, il a fallu filouter, mais du coup, j'utilise un système. Alors, ce qui se passe maintenant, c'est que j'ai rajouté une sorte de fenêtre dialogue qui s'ouvre, une pop-up, comme on disait avant. Et donc, tu cliques sur ajouter au panier, tu as une pop-up qui s'ouvre qui dit le produit a bien été ajouté au panier. Et là, tu cliques je continue mon shopping ou alors je vais au panier. Donc, tu as 2 boutons. Et du coup, ce bouton-là, en fait, j'ai fait un bouton qui reste permanent et je déclenche un clic dessus, en fait. Voilà. Donc, j'ai fait ça un petit peu, c'est un petit peu du tips, mais ça marche bien.
Ouais, c'est de la brise, c'est du bricolage.
Ouais, mais ça marche
bien. C'est le boulot, quoi. En fait, il faut toujours s'adapter aux API tiers.
Mais c'est vrai qu'on
fait pour les implémenter.
Il faut peut-être attendre la prochaine version pour qu'ils rajoutent une fonction JavaScript pour ouvrir le panier, quoi. Mais bon, c'est, voilà, quoi. Mais ils sont ouverts. Alors, suite à ça, ouais, j'ai fait un petit retour, en fait, à Snipcart par mail par rapport à mon implémentation, ce qui était bien, ce qui n'était pas bien, ce qu'il fallait améliorer, tout ça. Et ils m'ont confirmé de toute façon qu'ils ont des trucs qui sont prévus, qu'ils implémentent, etc. Donc, non, c'est bien. Moi, il y a 2-3 trucs que j'ai repérés, mais je vais le dire quand même. Mais par rapport à l'accessibilité, il y a 2-3 trucs qui ne sont pas top au niveau de Snipcart. Notamment au niveau des polices, tout ça, elles sont un petit peu petites, tout ça. Mais ça, ce n'est pas très gênant parce qu'on peut les surcharger au niveau du CSS. Donc ça, tu peux augmenter la taille des polices, les couleurs, tout ça. Ce que j'avais fait d'ailleurs pour le site. Et il y a aussi un truc vraiment, par contre, qui est très gênant, mais ça, c'est prévu, mais ils le feront plus tard. C'est en fait quand tu ouvres le panier, normalement, tu sais, au niveau de l'accessibilité, quand tu navigues au clavier, si je clique via le clavier ajouter au panier, normalement, ton focus doit passer sur le panier Sneakart, en fait. Et après, tu navigues dans ton panier Sneakart. Et ça ne se fait pas du tout, en fait. En fait, ton focus reste dessous. Donc, ça, c'est très gênant, en fait. Au niveau accessibilité, bon, c'est un petit peu dommage, mais j'espère qu'ils vont améliorer ça. Mais bon, après, voilà, quoi.
Après, c'est peut-être dans la roadmap,
Ouais,
mais
certainement,
peut-être
ouais,
pas
certainement. Mais
dans
comme ils
les
sont,
top prio,
ouais,
quoi.
comme ils sont une petite équipe, il m'a dit, on est une petite équipe, donc on ajoute des choses au fur et à mesure, tout ça. Mais ça viendra, je pense, j'en suis sûr. Donc, voilà.
Cool, cool. Donc du coup, maintenant, on peut largement dire que faire du e-commerce en statique Jamstack, bah c'est facile, quoi.
Oui, complètement. Bah, en fait, complètement, complètement. Et c'est surtout, j'ai envie de dire, ouais, c'est plus. En fait, quand tu maîtrises un générateur de site statique et que tu recommences à rajouter des snipcards et tout, bah, en fait, c'est très simple. Et puis derrière, tu te sens bien parce que tu te dis, bah, en fait, c'est sécurisé, je suis tranquille, ça risque rien, en fait. Donc,
Ouais, tu vas pas te faire injecter
ouais, exactement, ouais.
des mots-clés pour des sites
Non, mais c'est.
de casino ou des sites porno.
Ouais.
Tu vas pas te faire pirater ton compte, enfin ou tu vas pas te faire détourner tout ton tes modules de paiement parce que c'est Stripe. En clair, tu es venu déléguer
Ouais, c'est
chaque
ça, je propose
partie à des mecs
complètement.
qui font que ça. Et je pense qu'en fait, là, on est au cœur de la Jamstack, c'est du statique. Et pour chaque fonction métier, on vient déléguer à un mec ou un service qui fait que ça et qui le fait bien, quoi. Et Stripe, ils font pas de la recherche, ils font du paiement et ils font que ça et ils le font bien. Et Forestry, c'est un CMS. Et il fait que ça, il le fait bien. Et Netlify, il fait que de l'hébergement. Enfin, tu vois, on vient splitter tout et on vient articuler tout ça autour
Et oui.
de notre service, à nous, enfin, business logique, quoi, de notre app ou de notre site internet. Et je pense que c'est l'essence même de la Jamstack. Et c'est sûr, bah, c'est top, quoi. C'est top parce qu'on vient un petit peu orchestrer tout ça, quoi.
Oui, ouais. Une fois que tu as branché tout ça, ça marche tout seul en fait. C'est tout automatique. Et ouais, moi franchement, enfin j'ai des sites, je gère quelques sites WordPress. J'en ai juste ras-le-bol, quoi, de ces mises à jour de plugins qui sont. Enfin, franchement, tous les 2 jours, tu as une mise à jour de plugin à faire. Enfin, ça s'arrête jamais, en fait. C'est comme. Enfin, c'est horrible. Et bah là, il n'y en a pas du tout, quoi. Il n'y a pas de mise à jour de plugin, il n'y a rien à faire. Juste, voilà, la cliente, elle gère son compte Snipcart, et puis il n'y a rien à faire, quoi, rien. Et le site, il est statique. Donc, c'est des fichiers statiques. Et comme j'ai dit avant, voilà, elle fait des mises à jour de produits maintenant quasiment tous les 10 jours, et à peine. Enfin voilà, quel intérêt d'avoir un site dynamique derrière alors que le contenu il change quasiment jamais.
Ouais, avec la contrainte de
Et
maintenance, la
oui.
contrainte
Et puis de vitesse aussi.
de comment d'avoir un service qui tourne tout le temps. Ouais,
En
enfin,
termes de vitesse,
je
quoi.
pense que les bienfaits, ouais, non, mais les bienfaits sont plus que.
Ah ouais, mais je te dis, là j'ai donc je te disais, une commerçante que je connais sur Annecy qui a lancé son site, c'est un WordPress avec un WooCommerce. Mais le site, il est hyper lent, quoi. Le site, il met 2 heures à charger chaque page. Là, le site e-commerce statique, c'est instantané, quoi. Donc, ouais.
Est-ce que tu penses que c'est une stack qui pourrait marcher at scale? Ce que j'entends par là, c'est est-ce que, même si je ne suis pas super fan des boilerplate et tout ça, mais est-ce que en fait tu pourrais rendre un petit peu ton implémentation, ton e-commerce un peu, on va dire, générique? Peut-être pas automatisable, mais en clair, demain, tu as un client qui vient pour son site statique, bam, enfin pour son site statique e-commerce, j'entends, ouais, d'implémenter ça hyper, hyper rapidement pour te concentrer que sur du design, en clair, de lui sortir une singularité dans son site internet, mais ce qui te permet en fait de développer et de mettre en production un site e-commerce de manière très 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 rapide. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui l'outil comme tu l'as articulé, donc c'est-à-dire Gatsby, Netlify, Forestry, Snipcart, GitHub pour orchestrer tout ça, mais est-ce que aujourd'hui c'est totalement scalable ou il y aurait encore un petit peu des améliorations à faire, des petits tweaks à mettre pour rendre l'outil un peu scalable et rapide à mettre en prod pour un nouveau client?
C'est marrant que tu me poses la question parce que justement, je suis en train de travailler là-dessus parce qu'en fait, c'était un peu le but de ce site, c'était de voir ce qui était possible. Et ouais, l'idée, c'est de pouvoir sortir un site e-commerce assez rapidement. Alors, l'intérêt de toute façon, oui, parce que Snipcart, ça ne change pas, il suffit de le brancher. Forestry, je le branche, enfin tout ça. En fait, finalement, oui, comme tu dis, il n'y a que le design qui doit changer, éventuellement la position, enfin, comment dire, l'UX un peu des pages, tout ça, mais ouais, c'est ça le but. C'est comme on est sur du Gatsby, du React et des components qui sont réutilisables, c'est de pouvoir sortir un site e-commerce assez rapidement et beaucoup plus rapidement. D'ailleurs, j'ai essuyé pas mal de plâtre avec le premier site là. Donc, ouais, d'ailleurs, j'ai quelqu'un qui m'avait demandé. Une commerçante de Lyon, une autre, qui m'a demandé s'il y avait possibilité de faire un site le même. Et je lui ai donné un prix, tout ça. Et oui, je lui ai compté beaucoup moins de temps. Donc, ouais, c'est beaucoup plus. C'est plus facile à dupliquer parce qu'il y a beaucoup moins de réglages à faire, de tout ça. Ouais. On est tellement dedans.
Ouais. Ok. Et ouais, donc du coup, ouais, intéressant, parce que clairement, toi maintenant, en termes de commercial, tu viens avec une solution. Que tu peux proposer à tes clients d'un package e-commerce et tout en respectant tes convictions technologiques et tout en préservant aussi ton expérience développeur où t'as pas à gérer justement toute cette maintenance et en gardant une qualité de produit final sur des standards que on considère comme top.
Ouais, ça me fait un exemple et puis derrière c'est, enfin moi je sais que j'ai confiance là, le truc il est robuste, donc j'ai confiance, ouais, je peux le proposer sans problème. Et puis là on a j'en ai pas parlé encore, mais tu sais, j'avais un système de au niveau de la livraison, elle avait un. Comme on est en période de confinement, c'est assez particulier. Donc, elle a proposé trois types de livraison. Ce qui était, donc il y avait le retrait, logique, la livraison sur certains endroits sur Lyon et l'envoi par la poste, puisqu'il y a certains produits qu'elle pouvait envoyer par la poste. Et à ce niveau-là, ce qui est pas mal avec Snipcart, c'est qu'on peut le customiser, ce système en fait. Donc, ils ont un système par défaut de livraison où tu vas mettre le prix et le poids, etc. Enfin, classique. Hein. Et après, tu peux customiser ça via un appel à une fonction que tu vas lui donner. Et tu lui réponds, en fait. Donc, il t'envoie le panier en cours avec l'adresse, etc., les produits qui sont dans le panier. Et toi, derrière, tu vas analyser ça. Et en fonction, alors là, sur le coup, je l'ai fait avec le code postal. En fonction du code postal, je proposais ou pas la livraison sur Lyon. Et il y avait un minimum de commandes aussi. Donc, à ce niveau-là, c'est top parce qu'on peut vraiment customiser la livraison. Et je ne sais même pas si c'était possible de le faire sur un WooCommerce aussi poussé. Mais du coup, ouais, donc là, c'était pendant le confinement. Et là, je pense qu'on va basculer sur un nouveau mode puisque là, les magasins vont recommencer à ouvrir. On arrive bientôt le 11 mai. Et on va passer sur du click and collect. Donc, elle me demande justement de réadapter un petit peu le système de livraison. Mais ouais, voilà quoi, c'est... Le système, il est top. Parce que...
Ouais, donc en fait, t'as pas spécialement de limitation, quoi.
Mais j'ai pas. Je pense que ça, en fait, clairement où j'ai halluciné avec Snipcart, parce qu'au début, je pensais pas que c'était aussi poussé. Je pensais pas pouvoir customiser autant de choses. Et en fait, au fur et à mesure, je montais le site, je disais voilà, on fait ça, machin. Et puis elle a ses problématiques, forcément. Elle est commerçante, elle vend ses produits, elle a des problématiques. Et elle va te dire ouais, mais moi, j'aimerais bien. Livré sur Lyon, mais du coup je voudrais bien être sûr que si la personne ça lui propose de livrer sur Lyon, qu'elle habite bien sur Lyon, tu vois, des choses comme ça, voilà, vraiment des trucs paramétrables. Et et du coup j'ai découvert au fur et à mesure que Snipcart t'arrivait à aller vraiment à un truc super précis en fait. Et c'est du coup ouais, je suis assez étonné du système, il est vraiment top. Et comme je te dis, je ne suis même pas certain qu'avec un WooCommerce ou même autre chose, j'aurais pu customiser autant la livraison ou des choses comme ça. Donc, c'est totalement...
Sky is limit, quoi. Sky is limit.
Ouais, c'est... Des fois, tu hallucines toi-même. En fait, On a tendance à se limiter soi-même, alors que quand tu refais des recherches, tu dis, ah ben en fait c'est possible. En fait. Ah oui, on peut. À chaque fois, en fait, du coup, là, j'ai réussi à faire tout ce qu'elle m'a demandé.
Cool.
En fait. Il n'y a eu qu'une chose qu'elle m'a demandé où j'ai dit non, c'est pas possible. Tout a été possible. En fait. Ouais, top, quoi.
Ouais, donc top quoi, carrément, carrément. Top. Après, je pense sur Forestry, il y a cette possibilité-là. Je pense aussi à Airtable, peut-être, à aller regarder, qui a une approche un petit peu plus Excel, quoi, un
Ouais,
peu.
Airtable, c'est top, ouais.
Il y a peut-être moyen.
Airtable, c'est
Il
top,
y a
ouais. Il y a
peut-être
moyen de
moyen
faire des
aussi
choses
de
avec ça,
faire
ouais.
trouver peut-être un compromis entre les deux, ou je sais pas, tu vois, mais en tout cas, il y a quand même des choses plutôt pas mal sur tous ces services-là
Ouais,
pour gérer
Airtable, bah justement,
du e-commerce
ouais. Sur
statique.
une boutique où qui aurait peut-être plus de produits, un Airtable serait peut-être plus adapté, ouais. Pour gérer ça via façon Excel, quoi, avec un tableau, et puis... Si tu as 1000 produits, ouais, c'est peut-être plus facile à gérer. C'est clair.
Après, peut-être aussi pour faire des mises à jour un peu plus massifs,
Mmh,
tu
ouais.
vois, par exemple, ok, bah tout, tu vois, donc dans mon Airtable, je sélectionne, je filtre, je prends tous les produits cookies qui ont du chocolat, par exemple, et je fais une promotion, donc je change le tarif et je fais moins 20% sur tous les. Bon, voilà, c'est peut-être plus simple à faire avec du Airtable
Oui.
qu'avec chaque fichier Markdown où là je suis obligé de modifier, tu vois. Une fois de plus, bah, c'est que du custom, quoi. Mais en tout cas, ouais, ça amène quand même une belle possibilité de e-commerce statique. Donc,
Totalement,
c'est plutôt
totalement.
cool.
Ouais,
Excellent.
Airtable, je suis très fan
Excellent.
et en plus, ce serait totalement possible puisque Gatsby, la grosse force de Gatsby, c'est de pouvoir se brancher à différents. Tu peux avoir du contenu qui vient de différents endroits.
Différentes sources.
Je pourrais très bien avoir les pages qui sont sur Forestry et les produits qui sont sur Airtable et mixer tout ça et faire le site. Et ouais, c'est
Excellent.
clair que ce serait beaucoup plus facile à gérer sur Airtable, une liste de produits. Il y a juste un petit truc sur Airtable, c'est qu'à ce jour, il me semble qu'il n'est pas possible d'avoir des webhooks. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait trouver un système pour qu'on puisse builder le site.
Patrick,
À moins que tu aies
si
un.
c'est qu'un problème de
Oui, non, mais.
webhook et de mise à jour, tu vois, en fait, on vient créer. Là, moi, j'ai déjà regardé le truc. Je pense qu'il y a moyen de déployer un build, bah, depuis une fonction Netlify. Donc, tu viens coder quelque part et bah, ton bouton, en fait, bim, il déclenche ton build. Donc, le client fait toutes ses modifs sur Airtable. Une fois qu'il a terminé, tu dis, bah voilà, une fois que tu as fait toutes tes modifs, tu vas sur telle page, tu appuies sur tel bouton et bim, et ça lance le build. Donc, du coup, après, peut-être que maintenant, sur Airtable, ils ont mis un webhook possible, tu vois. Peut-être que ça a été implémenté. Si c'est pas le cas, je pense que nous, on peut le créer, tu vois, pour déclencher un build automatiquement, sur
Oui, c'est juste
une
un détail,
simple
ouais.
fonction.
C'est un détail. Mais non, mais je crois qu'il n'y a pas le webhook,
Mais
mais c'est prévu qu'ils en rajoutent. Et je sais que c'est dans le pipe, mais
dans la roadmap, tu vois,
ouais.
donc c'est en plus solution temporaire, tout. Mais ouais, je pense que, enfin, si c'est
Oui, c'est
que
que ça,
ça
c'est
la
pas grand-chose.
limitation.
C'est clair.
Ouais, je pense qu'il y a moyen
Oui, il y a toujours une solution.
qu'on trouve un truc, mais ouais, il y a toujours une solution plus ou moins acquis, mais ça marche toujours, quoi.
Yes.
Cool, excellent
Ouais,
ce petit bilan de e-commerce statique. Ça amène de belles perspectives.
Bah ouais, c'est quand même intéressant. Franchement, enfin, j'ai pris beaucoup plus de plaisir à développer ce site que si je l'avais fait avec un WooCommerce ou un PrestaShop, clairement. Donc, enfin, moi, en tout cas, je vais pousser là-dessus. J'aime beaucoup le concept. Comme je te dis, c'est robuste. Je suis sûr du produit. Et là, je le connais vraiment bien, je sais vraiment ce qui est possible de faire, ce qui n'est pas possible. Donc, moi, en tout cas, je vais continuer sur cette voie et ouais, je vais le proposer au maximum. Là, je pense que je vais essayer de proposer ça à d'autres commerçants dans les prochaines semaines et puis on verra si ça accroche. Ouais.
Super. Merci Patrick.
Bah, merci à toi pour ce petit podcast.
Excellent. Bah, je te propose qu'on termine là-dessus. Et puis, bah, de toute façon, on mettra tout dans les notes de toute façon, comme d'hab.
Oui, carrément. Bon, bah.
Ciao, ciao.
Ciao, merci
Merci.
à tous.
Au
retrouvez Double Slash sur vos plateformes de podcast préférées et sur le site internet du podcast www.slash-podcast.fr. Sur le site, vous allez retrouver tous les liens des épisodes, des références évoquées durant l'émission.